C'est vrai que c'est rare, les juridiques, on n'est pas pressé, ça fait du bien. C'est rare qu'on ne soit pas pressé dans ces événements, donc ça fait du bien d'avoir
oui,
un programme pas trop dense.
Oui, j'ai fait exprès de laisser une marge après.
C'est qu'il serait d'un quart d'heure, c'est pas possible, quoi. Il y a genre 20 personnes dans la journée.
Oui.
Ça fait pas sens.
Non, c'est... Non, mais comme ça force tout le monde à faire un truc qu'on en sait, mais après, c'est détendu.
Ouais, puis avec ton échange, c'est bien.
Ouais. Je pense que nous allons reprendre avec la dernière table ronde, la dernière discussion qui est une table ronde, et qui sort un peu des sentiers de la contemporain traditionnel. Donc nous allons discuter avec Alexis Palgic et Anthony Mazur. Donc, nous allons commencer avec Anthony Mazur, qui est professeur associé et responsable de la recherche à la Haute École d'Art et de Design de Genève. Ses travaux portent sur les interactions sociales, politiques et esthétiques des technologies numériques pour le design. Il est auteur de deux essais notamment, « Design et humanité numérique » paru en 2017, et « Design sous artifice, la création au risque du machine learning » qui vient de paraître en 2023. Il a également cofondé « Hinterland » en 2022, qui est un studio de création pour le monde décentralisé. Et donc il va nous présenter son travail sur le design à l'heure du machine learning. Ensuite, nous allons écouter Alexis Palgic, qui est enseignant-chercheur au MINE à Paris et dont les travaux de recherche portent sur l'immersion et l'interaction de la réalité virtuelle et augmentée appliquée à la conception industrielle, à la thérapie et à la médiation culturelle. Donc cette fois-ci, nous parlerons de l'évolution d'une autre technique qui est la réalité virtuelle et augmentée. Voilà, je vais laisser la parole à Anthony Mazur pour commencer.
Merci Carla, merci Alexandre pour l'invitation. Très content d'être avec vous à l'ENS Ulm, moi qui fais l'ENS Cachan, maintenant Paris-Saclay. Je crois que je préfère celui-là. Et voilà, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un essai qui vient de paraître, comme Carla l'a dit, qui s'appelle « Design sous artifice », qui en fait est une partie, la principale partie, sans doute d'un projet plus vaste. Donc je vais commencer par situer le contexte du projet, ensuite l'ouvrage, et puis ensuite les autres livrables de ce projet. J'ai commencé à m'intéresser à ces questions d'IA, je dirais, il y a environ 5 ans, en partie à la suite de ma thèse de doctorat que j'avais passée à Paris 1, qui portait sur les rapports entre le design et les pratiques de programmation. Et de là, j'en suis arrivé, Grégory, là, je sais pas ce qu'il évoquait ce matin, à étudier cette notion de boîte noire, qui m'intéressait dans le cas du deep learning, de l'apprentissage automatique, étant donné qu'on est face à des programmes qui, peut-être pour la première fois, ne sont pas écrits ou plus seulement écrits par des êtres humains, et c'est des programmes dont on peut à peu près seulement mesurer l'efficacité, mais expliquer exactement comment fonctionne une voiture autonome, qui ou quoi est responsable si on renverse quelqu'un, c'est compliqué. Et donc ça, voilà, ça m'intriguait un peu cette espèce de nouveau bestiaire qui d'un coup surgissait dans l'histoire de la programmation. Et donc pour ça, c'est la réalité de la recherche aujourd'hui, je ne répondrai rien, on répond les appels à financement, en tout cas en Suisse c'est de plus en plus le cas. J'ai obtenu un financement de la HESSO, c'est les hautes écoles dont je fais partie, je ne vais pas rentrer dans ce jargon-là. Et donc j'avais envie dans ce projet, ce que j'ai proposé, c'est d'étudier ces technologies du point de vue du design et plus précisément du design graphique. Peut-être si vous n'êtes pas familier avec le mot design, une définition très large, c'est l'ensemble, la conception de l'ensemble des objets et services qui composent notre quotidien. Donc ça peut être des bâtiments, des livres, des affiches, des sites web, etc. De la mode aussi, pourquoi pas. Donc ça fait beaucoup de choses, donc c'était impossible de tout traiter. Et donc j'ai restreint ce projet qui durait un an et demi au champ du design graphique, qui comprend du coup tous les objets imprimés numériques, typographie, images, mise en page, interface, etc. Ça me semblait important de circonscrire l'enjeu de ces technologies de machine learning dans ce champ. C'était le champ le plus urgemment concerné, parce que c'est de la deux dimensions. Quand vous traitez du design produit, c'est pas impossible, ou de la mode, c'est plus compliqué, parce que vous touchez à de la matière tangible. Et donc voilà, il y a aussi des conséquences dans ces champs-là, mais j'ai restreint là-dessus. Et ce qui m'intéressait, c'était de regarder, face à ces mastodontes, ces très grandes entreprises de la Silicon Valley, ou qui sont devenues très grandes, qu'est-ce que finalement des petits studios peuvent en faire ? Parce que le design graphique, si vous n'êtes pas familier avec ce champ, c'est en général des entreprises de 1 à 5 personnes maximum, Et donc, bah, forcément, il y a une disproportion énorme de moyens entre la big tech et cette démographie professionnelle. Donc, c'est de regarder comment ces promesses ou ces fantasmes d'automatisation pouvaient être réorientés à petite échelle. Également, donc c'était le début des générateurs d'images à cette époque. Hein. C'était, je crois que j'ai écrit le projet en 2021. Donc, il n'y avait pas encore DALL-E 2, il y avait, je crois qu'il y avait le 1. Enfin, c'était le début, mais on sentait déjà que ça allait se développer, hein, pour être honnête. Ensuite, comment on peut créer autre chose que du stéréotype? On voyait déjà à cette époque, ça paraît déjà loin, mais il n'y a pas si loin, les risques de formatage. Et puis, inversement, comment, face à ces discours techno-optimistes, technophiles, voire techno-fantasmatiques, comment le design pouvait aussi porter une voix plus critique et œuvrer à son échelle à déconstruire ces discours. Je travaillais sur ce projet avec deux collègues de la Haute École d'Art et du Design de Genève. D'ailleurs, j'en profite pour corriger ce qu'a dit mon prédécesseur. Mon collègue Douglas Eric Stanley n'est plus prof à Aix depuis un an ou deux, mais voilà, il est prof à la Haute Genève. Enfin, il était sur les deux écoles, maintenant, il n'est plus que chez nous. Donc lui, il est devenu spécialiste de machine learning, ce n'était pas le cas avant, il s'y est beaucoup mis. Et puis ma collègue Alexia Mathieu, qui est responsable du Master Media Design à la Haute Genève. Donc on a regardé ça ensemble. Et on a appliqué une méthode assez simple. En fait, on a commencé par des entretiens qu'on a réalisés avec une vingtaine de studios de design graphique à l'échelle européenne pour regarder concrètement comment, de façon prospective, ces personnes œuvrent avec le machine learning dans d'autres directions que celles de OpenAI, pour le dire très rapidement. Donc le livre principal du projet, c'est celui-ci. Donc, c'est un essai qui a été publié en mars 23 dans une collection qui s'appelle Manifest, que mon école édite. Dans une volonté manifeste d'ouverture, le livre est disponible dans beaucoup de formats, en imprimé, en HTML, en PDF, en EPUB et même en audiobook. C'est suffisamment rare pour être noté, un audiobook de recherche en langue française. Et il vient également d'être traduit en anglais. Donc pour l'instant, en anglais, il y a le PDF et la version imprimée, mais les autres formats, également l'audio, arrivent aussi ces prochaines semaines. Voilà, vous avez tout ça sur l'adresse URL qui a été notée. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les contenus du livre, qui du coup reprennent des extraits des entretiens que j'ai évoqués avant. Puis il y a d'autres livrables que je mentionnerai en fin de conférence. La première partie, c'est le contexte un peu historique et politique du machine learning. Ça, je ne vais pas vraiment développer parce que beaucoup de choses ont été dites avant moi. Juste pour noter que dans cette partie, je me suis beaucoup intéressé au rapport entre psychologie informatique et design, et notamment quelque chose qu'on a, je pense, trop vite oublié, ou en tout cas trop peu considéré, qui fait qu'on parle d'intelligence artificielle. Alors, Grigory Chatonsky parle d'imagination artificielle, d'autres d'intelligence aliénée, c'est pas de garder IA, ou cognition simulée, enfin bref, en tout cas, beaucoup de personnes ne sont pas satisfaites, à juste titre, et moi non plus, avec ce mot d'intelligence artificielle, parce qu'à la fois côté intelligence et artificielle, c'est problématique. C'est pour ça que du coup, dans le titre de mon ouvrage, j'ai gardé le terme un peu plus froid et plus technique de machine learning. Et notamment, pour moi, une des impasses majeures que j'ai observées, c'est que on vise à simuler l'intelligence humaine ou un cerveau humain, mais de quoi parle-t-on? En fait, on parle de quelque chose qui fonctionne en continu et qui est toujours efficace, soit donc à peu près l'inverse d'un être humain, qui est dans l'amour, comme on l'a vu avant avec Antoine Schmitt, ou dans pourquoi pas dans la haine, dans la colère, on peut dormir, on a tous des psychoses, des névroses, etc. Donc bref, on a du dysfonctionnement. Et cette notion de dysfonctionnement, on ne la retrouve absolument pas dans les approches dominantes et commerciales de l'IA. Et au début de la cybernétique, alors voilà, ça mériterait une étude plus approfondie, il y avait des recherches qui, du coup, étudiaient cette notion de dysfonctionnement et qui visaient à la simuler. Alors ça a évidemment été vite arrêté parce que, pour des raisons économiques et commerciales, si vous dites, voilà, donnez-moi de l'argent pour que je fasse un programme qui dysfonctionne, ça ne marche pas trop. Mais me semble-t-il que ça mériterait urgemment d'être ouvert. Dès lors qu'on parle de créativité, c'est une notion qui est absolument centrale. Donc c'est quelque chose que je discute dans la première partie de l'ouvrage. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, j'essaie d'étudier un ensemble de risques, de limites et de biais dans ces approches. Alors je traite du machine learning, pas de toute l'IA, hein, qui a une très longue histoire de plus de 50 ans avec d'autres approches et beaucoup de controverses. Je ne vais pas pouvoir développer tous ces axes faute de temps, mais je vais juste vous donner les noms puis en ouvrir deux, enfin en tout cas peut-être juste les énoncer rapidement. Tout d'abord, le renforcement du pouvoir aux nouvelles formes de pouvoir. Donc aussi, beaucoup d'exemples, malheureusement, dans ces technologies qui discriminent des populations déjà minorisées ou qui créent des nouveaux effets de seuil qui, du coup, vont entraîner des nouveaux effets de discrimination. Un exemple très simple, vous demandez à Midjourney, donc un générateur d'images, de représenter un terroriste, systématiquement vous aurez une personne arabe avec un turban sur la tête. Vous demandez de représenter un président, ce sera un vieil homme blanc qui ressemble à Donald Trump. On pourra dire oui, c'est des stéréotypes qui sont déjà dans la société, évidemment, mais dès lors que vous les propulsez à des centaines de millions de personnes, me semble-t-il que ça crée une réalité d'une autre nature qui mérite d'être énoncée et dénoncée. Assister ou asservir, bon ça c'est une vieille rengaine dans le champ, ou une vieille polémique dans le champ du design graphique ou du design tout court, avec les logiciels de création apparus dans les années 1980. Ça j'y reviendrai après. On peut se demander, est-ce que c'est de l'assistance ou de l'asservissement qui est au service de l'autre, et est-ce qu'on doit toujours penser en termes de service? Ensuite, stéréotyper les méthodes de conception, pareil, ben ça c'est des choses qui émergent déjà avec ces logiciels que je viens d'évoquer et qui s'accélèrent et se renforcent avec ces programmes. Donc on a une espèce de conception stéréotypée, modélisée et à vrai dire assez vite ennuyeuse. Moi je suis personnellement pas impressionné par ces programmes d'images, c'est de la performance et du truc, mais assez vite on repère un style et ça tourne un peu en rond. Et comme le disait Grégory Chomsky ce matin, ça révèle aussi beaucoup de choses sur les gens qui les utilisent. Voilà, des outils absolument formidables, mais pour créer des voitures en 3D sous des néons ou des avatars féminins en soutien-gorge ou autre. Enfin, vous voyez, c'est pas super intéressant. On dit on peut faire ce qu'on veut, mais on voit que des choses absolument inintéressantes. Donc, du coup, c'est aussi un paradoxe que je discute dans le livre. Un peu la même chose avec l'impression 3D. Hein. Voilà, c'est pareil, des machines formidables, mais si c'est pour imprimer des Yoda, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Imitation et uniformisation, peut-être je développe un petit peu. Voilà, juste en développer deux. Cette citation de John Maeda, donc, qui est artiste numérique et designer. Donc c'est une citation de 1995 et il disait que du coup on peut se demander qui assiste l'autre entre le designer et la machine, et qu'on est très proche du point où le designer moyen n'a plus rien à vendre qui vaille la peine d'être acheté. Donc c'est une citation assez sévère, me semble-t-il assez juste, parce qu'il y a beaucoup de discours qui disent, voilà, un peu romantique ou prudent peut-être, qui disent on va jamais remplacer l'humain, parce que du coup l'être humain a toujours une imagination, la singularité, etc., etc. Mais de quel designer parle-t-on dans ce cas-là? En fait, il y a beaucoup de postes où on ne demande pas aux gens d'être inventifs ou créatifs, absolument pas. On leur demande de reproduire ce qui fonctionne économiquement, une machine reproduira toujours mieux et plus efficacement que l'humain. Et pour la petite histoire, j'ai échangé en off avec quelqu'un de Ubisoft, donc cette entreprise de jeux vidéo qui a plusieurs milliers d'employés, qui vont se séparer très prochainement, si ce n'est pas déjà fait, de centaines de designers. Alors ceci une excuse pour précariser l'IA, comme l'a montré le sociologue Antonio Casilli. Mais en tout cas, l'argument, c'est l'IA va leur permettre de licencier plusieurs centaines de designers. Peut-être que c'est des gens qui avaient pour poste d'appliquer des textures sur modèle 3D ou de répéter des choses, et ça, maintenant, ça peut être automatisé. Donc, du coup, dans le livre, je discute dans une partie. Peut-être qu'on aurait une partition entre des designers moyens qui, eux, la valeur sera difficile à faire valoir, et puis peut-être un design d'élite, peut-être pourquoi pas pour des musées, institutions culturelles ou autres, à haute valeur ajoutée, qui lui peut-être se renforcera. Mais là, on va avoir vite un problème au niveau des écoles et des cursus. C'est que si on forme plusieurs milliers d'étudiants, d'étudiantes par an dans ces secteurs-là, de quel pourcentage on parle? Sans doute pas de 100% des personnes formées. Donc du coup, voilà, ça nous emmène tout de suite vers les cursus et la pédagogie, ce que je redévelopperai en fin de conférence. Au niveau de l'imitation, ça c'est aussi quelque chose que je discute dans l'essai, on se gargarise de la capacité de la machine à imiter des productions humaines existantes, qui est en fait une vieille question dans l'histoire de l'art, et donc notamment la photographie peut être très importante à regarder de ce point de vue-là. Quand la photo apparaît historiquement, elle imite la peinture de façon plus efficace, on se fait tirer le portrait, parce que ça coûte moins cher de se faire photographier que d'avoir un peintre qui vous représente. Et on en est exactement là avec ce type d'exemple. Alors ici, c'est une campagne de communication, d'ailleurs, ce n'est pas une œuvre d'art à la base, ce qui est assez peu mentionné quand on parle de cet exemple, The Next Rembrandt. Et c'est une impression sur toile. Donc il y a plusieurs embûches ou arnaques, ça dépend du point de vue. Donc on appelle œuvre d'art une image d'œuvre, finalement, ce qui n'est pas la même chose. Donc qu'est-ce qu'on fait de la matérialité d'une œuvre d'art? C'est quand même assez vite central. Et puis, quel intérêt de faire un nouveau Rembrandt? Il y en a déjà 500 qu'on n'a pas le temps de voir dans notre vie, dans tous les musées du monde. Pareil, c'est aussi quelque chose qui pourrait être questionné. Et surtout, voilà, donc je me demande de façon assez provocante dans le livre, est-ce qu'on parle de technologie révolutionnaire comme dans les discours médiatiques qui entourent ces objets, ou est-ce qu'on ne devrait pas parler de technologie réactionnaire? Parce que du coup, on est vraiment dans l'art de salon, dans la codification de normes et dans la glorification d'œuvres d'art en rapport à ces normes du passé. Voilà, donc ça, je vous renvoie notamment à l'essai petite histoire de la photographie de Walter Benjamin qui avait déjà mis ça en évidence il y a près d'un siècle. Et dans la troisième partie d'ouvrage, peut-être la plus originale, parce que moins discutée, ces biais-là, dans un sens, beaucoup ont peut-être déjà été énoncés, j'ai essayé de les rassembler, de les augmenter. Du coup, c'est la partie où j'intègre vraiment ces extraits de studios de design qu'on a interrogés pour essayer de révéler, de ne pas rester uniquement sur une critique, mais d'essayer de voir ce qu'on peut faire de plus intéressant que ce que j'ai dénoncé. Donc, cinq pistes de travail que je vais prendre une par une. La première, c'est de nous demander si finalement ces machines sont très fortes à standardiser. On peut en fait utiliser précisément cette capacité à standardiser pour repérer ce qui est déjà normé ou formaté dans nos environnements. On n'a pas attendu ces programmes pour créer de l'homogène. Par exemple, si vous prenez les films de Walt Disney, il y a beaucoup de séquences qui sont copiées-collées d'un film à l'autre, puis on a juste changé le personnage. Et donc, on pourrait utiliser ces programmes pour calculer des sortes de coefficients ou repérer ce qui est déjà homogène. Un exemple de ça, c'est cette œuvre de l'artiste Robbie Barat, qui a créé une collection fictive pour la marque de mode Balenciaga, qui du coup met en évidence déjà tout le formatage déjà présent dans la mode. On n'a pas attendu le machine learning pour ça. Et paradoxalement, ça crée une collection qui a été saluée par les experts de la mode comme plus intéressante que beaucoup de pièces Balenciaga, notamment en raison des glitches de l'époque. Par exemple, ici, vous avez une sorte de pantalon sac, ce que peut-être Balenciaga n'aurait pas pu faire seul. Ouais, c'est assez intéressant, je trouve à noter. Il y a d'autres exemples dans le livre, mais évidemment, je ne peux pas tout prendre. Deuxième exemple, il y a une promesse de simplification dans les usages ou d'usage dit naturel. On va dire, on utilise un langage naturel pour parler à la machine. Alors, un langage naturel, je ne sais pas trop ce que c'est, parce que quand on est sur Terre, on ne sait pas parler. C'est quelque chose qui est évidemment culturel. Et puis, plus on crée de simplicité, surtout, plus ça crée de complexité en amont. Ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup, qui a été réalisé par les artistes et chercheurs Crawford et Joller. C'est une anatomie de l'enceinte Amazon Echo, où du coup, on a une boîte noire, on parle, ça répond. Mais pour que ça fonctionne, il faut extraire des minerais dans des pays en guerre. Il faut payer des travailleurs au Kenya pour entraîner les programmes. Il faut des serveurs dans des pays qui vont en plus réchauffer la planète indirectement. Donc voilà, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, une sorte d'honnêteté d'analyse qui fait que c'est important à être noté. Donc on pourrait poursuivre cette démarche sur d'autres programmes que ces enceintes connectées pour du coup contrecarrer cette injonction à la simplicité, comme je propose de l'appeler. Troisième axe, il y a une promesse de fonctionnement, de performance, d'efficacité qui revient à peu près tout le temps dans les discours de ces entreprises et malheureusement souvent dans les médias grand public qui reprennent sans trop de distance ces discours-là. Mais en fait, ça ne fonctionne pas si bien et ce n'est pas forcément un problème. Et donc, de regarder ce qui fonctionne mal pour le voir positivement. Ici, c'est une proposition créée par deux designers dans le champ du design produit et pas du design graphique. J'ai quand même, dans certains exemples, été au-delà, qui ont pris deux bases de données. D'une part, Alibaba, donc ce Amazon chinois, vous avez des composants électroniques en tout genre. D'une part, et d'autre part, le design nordique type IKEA. Et ils ont fait avaler ces deux bases de données, ces deux jeux de données, pardon, à un programme de machine learning pour les hybrider. Donc la culture chinoise d'un côté, la culture nordique du design de l'autre. Donc ça donne des objets un peu bizarres, un peu chimériques, comme ce chandelier qui recharge des téléphones, où vous avez également un contrôleur en vitrocéramique pour jouer à des jeux vidéo. Et donc, au-delà du côté humoristique, ça nous questionne sur les catégories culturelles dans le champ du design, qu'est-ce que ce serait de créer un objet de 20% de Philippe Starck, 30% d'Ettore Sottsass et 20% d'Alexandre Geffen, où il est 5% de Karl Marx. Donc on peut arriver maintenant à des hybrides tout à fait étranges qui nous font du coup reconsidérer nos stéréotypes ou les catégories historiques qu'on croyait installer. Et d'ailleurs, comme tout a été scrappé, les plans de ces objets ont pu être automatiquement mis en ligne sur GitHub et être du coup, pourquoi pas, commercialisés. Quatrième axe, avant-dernier, la leçon de traduction. Alors, je suis dans un colloque avec beaucoup de personnes en littérature, donc je fais attention à ce que je dis, mais me semble-t-il qu'avec ces technologies du machine learning, la leçon de traduction, elle peut être étendue, ou pourquoi pas re-questionnée. Ce que nous invitait déjà à faire le philosophe des médias Wilhelm Flusser, dans les années 1980. Voilà, il disait que, par exemple, on sait traduire une langue dans une autre, mais traduire Marx en architecture, c'est compliqué. Me semble-t-il qu'avec ces programmes de machine learning, on peut traduire tout en n'importe quoi. Alors, ça dépendrait de ce qu'on entend par traduction, mais en tout cas, on peut réaliser ce type de passage. Ici, un exemple, alors, malheureusement, il est parti, mais Grégory Chatonsky avait créé il y a quelques années un ouvrage avec des textes, poèmes générés par une machine et du coup des images générées à partir de ces textes générés. Donc on a ici une traduction texte-image, ce qui peut-être maintenant paraît presque banal, mais ça n'a pas eu tout de soi historiquement. Et donc maintenant on peut faire de la vidéo en son, du son en bâtiment, enfin à peu près dans tous les sens c'est possible. Et donc ça mériterait de raffiner la notion de traduction ou inversement d'analyser ces objets avec toutes les théories de la traduction en littérature qui existent déjà. Donc ce serait le quatrième axe de travail que je pourrais vous proposer. Également un autre exemple de traduction peut-être à contre-courant de ce qu'on voit d'habitude. Ça a été évoqué ce matin indirectement par son intervention sur le groupe de Vincennes. Donc là, c'est le catalogue de l'exposition en question qui a été réalisé par deux collègues designers graphiques qui ont créé un programme qui a annoté l'ouvrage. Donc on voit ici voilà, des notations. Donc c'est une espèce de surcouche machinique qui vient créer à la fois du lettrage pour les titres, mais aussi une sorte oui, d'annotation sémantique, donc comme une surcouche machinique qui perturbe ou qui augmente la lecture. Donc, pour moi, ça pourrait aussi, dans un sens étendu, être considéré comme une forme de traduction. Et enfin, dernier axe de travail, qui est celui qui est le plus ressorti des entretiens avec les studios, c'est de sortir du remplacement humain-machine, qui est en fait c'est la base de mon ouvrage, hein, de critiquer cette vision binaire, et qui, me semble-t-il, ne permet pas vraiment de penser les choses de façon juste, et de regarder ces programmes comme peut-être des nouvelles formes de collaboration, ou des nouveaux types d'entités, qui ne soient pas des humains, mais un peu autre chose, et avec qui on peut discuter et échanger. Donc ici toujours Simone Rebodengo qui se demande dans un programme qu'est-ce que ce serait d'entraîner des jeux de données sur pourquoi pas avec des données de personnes âgées ou avec des entités non humaines comme des fleurs, des planètes ou des animaux. Donc ça pourrait aussi renouveler notre conception de l'intelligence, de sortir de ce paradigme uniquement humain-machine et d'aller vers des choses plus hybrides. Et ici un exemple de performance de l'artiste Raphaël Bastide qui s'est enfermé dans une galerie d'art pendant je sais pas, 2 semaines je crois, et qui a créé un double machinique de lui-même avec lequel il a pu dialoguer et renouveler sa pratique artistique. Donc ça s'appelle jumeau, un peu comme un jumeau machinique. Ce que je trouvais également intéressant pour sortir de cette binarité humain-machine. Et me semble-t-il, c'est vite très pauvre en fait quand on se dit mais est-ce que c'est un humain qui a créé, est-ce que c'est la machine? C'est toujours de l'hybride, mais on a du mal à penser positivement cette hybridité en fait. Et dernier exemple sur ce champ-là, c'est un workshop qui s'est tenu dans mon école à Genève en 2020, où les étudiants et étudiantes ont été invités à créer une sorte de workflow en design graphique du futur. Donc c'était un projet qui visait à concevoir des comptes illustrés. Et donc pour réaliser ce workflow, ils et elles ont dû créer un processus assez complexe qui utilisait à la fois du machine learning, mais également d'autres types d'IA, notamment de l'IA symbolique, qui est un champ qui a été à peu près abandonné aujourd'hui, également des programmes qui ne sont pas du tout de l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre que ces programmes, ce n'est pas on appuie sur un bouton et ça crée une œuvre, ce qui est vite inintéressant, mais que ça peut être utilisé à certaines phases de création et pas à d'autres, et hybridé avec d'autres choses qui ne sont pas de l'IA. Et là, on peut arriver à des choses peut-être plus ouvertes. Il me reste combien de temps, Carla? Ça va.
Tout le temps que
okay. Bon, encore peut-être 5 minutes, 5-10 minutes maximum. J'avais dit que ce n'était pas uniquement un ouvrage, ce que j'ai présenté, mais également un projet plus vaste. Donc on va voir deux autres livrables. Tout d'abord, il y a un site web associé à l'essai. Alors, si j'ai le temps de vous montrer une démo, c'est parfait. designmachinelearning.ch qui a été conçu par mon collègue Douglas Edric Stanley, donc qui présente... la résolution est un peu bizarre, mais peut-être c'est lié au projecteur. Qui présente du coup, c'est un petit peu mieux d'habitude, mais voilà. Je vais fermer les palettes. C'est une sorte d'OS mobile, donc je peux les fermer, vous voyez. Donc on a l'essai en ligne, en HTML. Donc, je vais prendre une partie au hasard, et donc je peux surligner n'importe quel passage du livre. J'appuie là-dessus, et là, donc, ça reprend l'extrait que moi j'ai écrit en vert. Et donc ChatGPT, en violet, va compléter ma phrase. Donc ce qui est bien, c'est que si vous n'êtes pas content de ce que j'ai écrit, vous pouvez demander à ChatGPT de compléter n'importe quelle partie de l'ouvrage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une démarche de recherche-création, peut-être que vous n'êtes pas familier. Donc c'est l'idée que la recherche en arrêt design peut prendre d'autres formes que uniquement le texte. Bon là, c'est du texte, mais qui est généré par un programme. Et puis en dessous, vous avez DALL-E 2 qui génère, à partir de l'ensemble vert plus violet, un prompt qui est converti en image. Donc c'est du temps réel, hein, si on régénère la chose, ça donnera un résultat à chaque fois différent. Donc c'était assez complexe à mettre à faire ça. Ça paraît simple maintenant que je le montre. On voulait à la base utiliser notre propre jeu de données, mais voilà, les équipes techniques de Infomaniac, qui est un hébergeur suisse, ne savaient pas faire ça. Donc c'est pour montrer que même pour des gens experts en programmation, c'est pour l'instant très compliqué, voire impossible, malheureusement, de se passer de ces services un peu clés en main. Peut-être qu'on y arrivera à l'avenir, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas réussi. Également, dans le cadre de ce projet, j'ai commandé à deux designers graphiques que j'ai déjà cités, donc Elise Gay et Kevin Dono, une campagne de communication autour de l'essai et du projet en général. Donc, c'était une carte blanche, je leur ai dit, voilà, lisez l'ouvrage et trouvez un concept de communication qui fasse sens et qui soit également autonome par rapport à l'ouvrage. Et donc, ils ont discuté avec DaVinci, qui est un clone de ChatGPT, pour lui demander quelle serait une campagne de communication adéquate pour mon livre. Et donc, ChatGPT, DaVinci, c'est presque pareil, a proposé 5 formes qu'ils ont mis en scène dans des affiches avec leur dialogue en haut et la réponse de DaVinci en bas. Donc voilà, je vous les montre un peu. Je vous montre 3 affiches, il y en a 5 en plus grand. Et je vais vous montrer un court-métrage 3D qui dure 5 minutes qui, du coup, reprend ce dialogue. Et j'espère que le son va marcher. On va voir.
Ouais. Ça fonctionne pas quand tu es comme ça.
Ça va, j'en pense 5 minutes, pas plus première.
C'est très bien, franchement. Okay. C'est mieux si ça.
Dear Da Vinci, we are graphic designers Elise Gay and Kevin Dono. We want to explore the possible images that could convey the links between design and machine learning. How would you picture these issues in their interplay?
With a Rubik's Cube.
Why?
This object symbolizes the complexity of machine learning and its ability to solve complex problems.
That's a game. Why do you think that a game is relevant to depict machine learning and design?
A Rubik's Cube is a great object to represent the complexity of machine learning because it is a game that requires problem-solving skills and analytical thinking. Just like machine learning, solving a Rubik's Cube requires an understanding of algorithms.
The interaction with a Rubik's Cube requires physical manipulation. Why do you think that this is important?
It illustrates the need for humans to interact with machines in order to create something new.
Don't you think that machines are able to create autonomously without humans?
While machines are able to create autonomously without humans, it is important for humans to be involved in the process in order to ensure that the machine learning algorithms are used correctly and efficiently. Humans must also provide guidance and direction when creating something.
This idea seems far from the symbolics of Rubik's Cube. Can you suggest a more accurate representation?
An AI-powered robot.
Why?
Representing the use of machine learning in automation, this object could show how machines are able to learn from their environment and make decisions on their own.
What would the physical aspect of this robot be?
The physical aspect of an AI-powered robot could be a humanoid figure with robotic arms and legs. It could also have sensors that allow it to detect its environment and make decisions based on what it perceives.
Why do you think that an organic human reference is appropriate to figure something as abstract as machine learning algorithms?
It provides a tangible representation of the technology. It also serves as a reminder that machines are not just tools, but have the potential to become intelligent agents in their own right.
If machines are not just tools, but can become intelligent agents of their own right, what does it mean for designers working with that kind of machine?
Designers must be aware of the potential implications and risks. They should also consider how to best leverage machine learning algorithms in order to create meaningful and impactful designs. Designers must also understand that machines are not perfect, so they need to be mindful of any errors or biases that may arise from using these technologies.
I like this idea of a duo of human and machine designers. How could we symbolize this concept?
With a set of gears.
Why?
Symbolizing the interconnectedness between man and machine, this image could illustrate how both must work together for optimal results when using ML technologies.
Why do you think that a mechanical object is more appropriate than an abstract symbol to figure this interaction?
Because it conveys a tangible representation of how both must work together. Each component has its own purpose, but when they are all connected, they can create something greater than the sum of their parts. This concept is similar to how humans and machines need to collaborate in order for ML technologies to be used effectively.
Yes, but if graphic designers try to invent new visual forms, how can an AI which is trained with millions of existing images collaborate with them?
AI can collaborate with graphic designers by providing insights into the patterns and trends that are present in existing images. This information can be used to inform new visual forms and help guide the creative process.
How would you represent the sensing of insights that AI could provide?
With the image of a brain.
Why?
Considering AI as a brain shows how machine learning can be used to understand and analyze data more quickly than humans. This image could represent the power of artificial intelligence.
Are you using this organic metaphor to create ambiguity between human and machine creative output?
Yes. It is a reminder that although machines are becoming increasingly intelligent and have the potential to surpass humans in certain areas, they will never be able to replicate or replace human creativity.
What is creativity for you?
For us, creativity is the ability to think outside of the box and come up with innovative solutions to problems. It involves taking risks, being open-minded, and having a willingness to explore new ideas.
I think that new visual propositions don't come out of the blue. What is the role of cultural knowledge in the creative process?
By leveraging cultural knowledge, designers can gain a better understanding of their audience and create visuals that are more meaningful and impactful.
If you would summarize this idea in one unique image, what would it be?
It would be a book with a computer chip embedded inside it.
Les modèles 3D ont également été générés par une IA, comme c'est marqué à la fin, enfin, qui est encore plus rudimentaire que les images, ça s'appelle Clip Mesh, c'est pour ça qu'on a ce style assez brut. Et pour finir, voilà, quelques ouvertures, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'aimerais, alors c'était à la base, c'était le projet à la base, mais le rectorat n'avait pas financé sur cet axe-là, c'est de regarder les implications pour la pédagogie de ces programmes, et puis 2-3 ans après maintenant, tout le monde a peur ou s'excite autour de ChatGPT, c'est selon. En tout cas, dans mon école, on a initié un plan d'action IA et quelques actions concrètes. On aura un cours transversal bachelor licence à la rentrée de 3h30 par semaine autour de ces technologies, qui abordera également des enjeux critiques et les biais qui sont reliés. Également un programme de formation continue, donc pour le personnel en interne, mais également pour toute personne extérieure intéressée. De la veille stratégique, on va également explorer ce qu'on a déjà commencé à faire, des alternatives open source, d'autres projets de recherche et un colloque en 2024. Donc voilà, une partie de ça a déjà été réalisée. Si vous voulez creuser la partie pédagogie, j'ai mis en ligne il y a 2 semaines un état de l'art de plus de 40 articles que j'ai analysés et synthétisés sur les rapports entre IA et pédagogie. Donc voilà, c'est ici, donc ça a pris quand même pas mal de temps, on continue à le mettre à jour. Et de là, un des projets que j'ai proposé pour être financé, alors j'attends la réponse, je l'ai envoyé hier, c'est ça, c'est de créer un manuel d'exercice pédagogique avec l'IA, qui du coup pourra intéresser des enseignants enseignantes de tout domaine, parce que du coup, voilà, on dit à nos collègues enseignants d'utiliser ces programmes-là en cours, mais on ne leur dit pas vraiment comment faire, ce qui pose pas mal de défis. Donc l'idée, c'est de créer des exercices, de les tester, puis de voir ce qui est intéressant ou ce qui est moins intéressant. Donc, si vous êtes intéressé à contribuer à ce projet, vous pouvez évidemment me contacter. Et puis, voilà, je vais passer là-dessus. Et donc, je vous remets les liens pour retrouver l'ensemble de ces livrables qui sont placés sous licence libre. Et je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de vos questions.
Merci beaucoup. Je vais appeler Alexis Palagic et nous passerons aux questions communes juste après.
Oui.
comme vous voulez. On peut bouger le câble aussi, comme vous voulez.